19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, on est vendredi, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. 19h, nous allons commenter le tout nouveau visage du gouvernement. C'est l'actualité la plus récente. Et avec vous, 0153 48 3000, vous allez pouvoir venir en parler justement à l'antenne, très librement, en toute liberté d'expression. Alors, ce qui a aussi retenu notre attention, c'est aussi le billet d'humeur, le Quad Neuf avec Michel Taube tout à l'heure à 19h30. Mais également aussi, on viendra parler des femmes dans le numérique. Vous le savez, c'est un sujet aussi qui préoccupe et on en parlera dans une poignée de minutes juste après. Donc, le sommaire. Alors, les débatteurs, ils sont en place, ils sont avec nous. Ils viendront justement, eux, confronter leur point de vue concernant les trois sujets qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, le tout nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place là en ce moment même. Quelques nouveaux visages, nous allons en parler. Nous parlerons des législatives, de la NUP, tiens, qui elle-même, Mélenchon n'est pas content, notamment de certains candidats et puis surtout avec le ministère de l'Intérieur. Bref, on en parlera. Et puis la Turquie qui commence à redessiner, bousculer la géopolitique, notamment qui monnaie son soutien à la Suède et à la Finlande, qui veulent entrer à l'OTAN. Et ben on en parlera tout à l'heure avec nos débatteurs, Maître David Libeskind, mais également aussi Hamid Shriyet qui sera avec nous. C'est le face-à-face d'aujourd'hui. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
L'invité pour clore cette semaine, c'est parti pour parler de femmes numériques.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, vous le savez, c'est avec femmes numériques. Femmes numériques, justement, un sujet qui intéresse au plus haut, les métiers du numérique. Est-ce que finalement, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont besoin de plus de femmes? C'est avec, vous savez, la directrice générale, justement, de Femmes Numériques, qui s'appelle Peggy Vicomte. Bonjour Peggy Vicomte, la directrice générale.
Bonjour Adil.
Merci d'être avec nous, madame la directrice générale. Vous êtes notre invitée. Justement, qu'est-ce que c'est que Femmes Numériques? Dites-moi, c'est né en 2018, ça oui, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi au juste? C'est un collectif? C'est une association? C'est une fondation?
Exactement, c'est un collectif de collectifs, c'est-à-dire que nous représentons aussi bien les entreprises employeurs et leurs organisations professionnelles que les écoles d'informatique, d'ingénieurs, les universités, toutes les associations engagées sur ce sujet de féminisation ou d'égalité femmes-hommes, les régions, les experts et bien sûr les ministères. Donc, en fait, l'objectif est assez ambitieux de rassembler tout le monde autour de la table et de discuter et d'agir.
Justement, parlons-en, c'est très... J'ai pas envie de dire c'est très à la mode, non, Peggy Vicomte, justement. Le numérique, on sait que le numérique, il va y avoir, comment dirais-je, une pénurie de talents, d'accord? On sait que la main-d'œuvre, on va la chercher notamment, exclusivement, en Afrique du Nord. Vous êtes d'accord avec moi?
Pas exclusivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui intéressent beaucoup... De personnes de nationalités différentes. C'est un problème assez franco-français. On voit qu'effectivement, les pays du Nord, d'Afrique du Nord, en Inde, en Malaisie, ce sont des métiers qui sont très largement féminisés.
On voit, c'est vrai, de plus en plus d'ingénieurs dans le numérique. C'est vrai que vous avez raison, il y a de plus en plus de femmes dans le monde numérique.
Dans le monde numérique, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des métiers qui vont nous permettre de participer à la transformation de notre société. L'aménagement des territoires, l'agriculture, la santé, toute la transformation de nos entreprises, de nos modes de vie vont être impactés par le numérique. C'est pour ça qu'il faut que les femmes et les filles soient autant concernées que les hommes.
On parle de combien de pourcentage d'ailleurs des femmes qui sont représentées dans les postes techniques du numérique?
Alors écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les femmes représentent en France 51% de la population. 56% vont en études supérieures, donc c'est un chiffre intéressant. Mais seulement 17% sur les fonctions techniques du numérique. Parfois même 10% quand on est sur des sujets très techniques comme la cybersécurité par exemple.
Vous êtes en train de me dire que la femme dans les métiers du numérique, c'est... C'est important aujourd'hui, elle a toute sa place, mais surtout c'est un véritable vivier.
Alors, c'est effectivement un vivier pour les entreprises. D'abord parce que, effectivement, pénurie de talents, ça veut dire que les entreprises sont à l'affût. On parle en fait de crise de talents dans notre secteur, vous voyez. Donc, les entreprises sont à l'affût des meilleurs profils. Tout niveau confondu. On peut évidemment faire des études Bac plus 2, Bac plus 5, niveau technicien, ingénieur, mais on a également des formations beaucoup plus accessibles à des personnes qui n'auraient pas envie de faire d'études, mais qui auraient envie d'aller sur ce secteur d'activité.
Alors, Femmes Numériques, justement, ce collectif, est-ce qu'aujourd'hui, comment il promeut les femmes dans ce milieu qui est resté longtemps, justement, très masculin?
Alors, en fait, c'est vrai qu'il faut aussi bien répondre à l'urgence, donc être dans l'action, que être surpositionné sur le temps long. Puisque, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes, de jeunes filles, mais aussi bien les filles que les garçons, d'ailleurs, il y a une désaffection pour ces métiers du numérique, parce que les jeunes, aujourd'hui, sont très utilisateurs de ces des supports numériques, du téléphone, etc., des applis, mais ont très peu conscience. En fait, c'est un outil de transformation de notre société. Donc nous, on va être là en fait pour, par exemple, montrer des rôles modèles très accessibles pour les jeunes filles, mettre en interface les uns et les autres et soutenir les associations locales. Alors, à travers notamment du financement de la fondation qui regroupe des entreprises privées qui permet justement de soutenir ce type d'action.
Madame la directrice générale, justement, Femmes Numériques, c'est quoi? C'est une association, une fondation, et avec quels moyens?
Alors, une fondation et une association. C'est assez atypique dans ce secteur, c'est-à-dire qu'on a voulu s'appuyer sur ces deux leviers d'action. Donc, la fondation qui regroupe des entreprises privées qui recrutent et qui peuvent, à travers des dons, soutenir des projets de sensibilisation ou de formation au numérique. Mais il y a aussi également cette association qui permet de fédérer, de commencer des réflexions prospectives. Nous travaillons beaucoup avec les régions, les ministères, les académies sur le terrain pour pouvoir proposer des actions très concrètes.
Femmes Numériques, aujourd'hui, quand on parle des métiers dans le monde numérique, demain, le monde numérique va occuper une place de plus en plus importante. Peggy Vicomte, je ne vous l'apprends pas. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir favoriser davantage la mixité dans ce milieu du numérique?
Alors, la mixité... Alors, nous, on s'occupe de la mixité de genre, mais tout type de mixité est plus que bienvenu. D'abord, les études le montrent. Les entreprises sont plus performantes quand les équipes sont mixtes. Et ensuite, le fait de ne pas intégrer les jeunes filles, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans la création, le design, l'administration, la gestion, la sécurisation des systèmes d'information est un vrai problème. Je vous prendrai un seul exemple.
Oui.
Les premières applications en santé, par exemple, applications numériques en santé, ne prenaient pas en compte les cycles prémenstruels des jeunes filles. Et donc, les données de santé étaient fausses, étaient biaisées. Donc, il faut absolument que les jeunes filles soient représentées, ça c'est très important, mais puissent agir au quotidien. Je prends par exemple...
C'est un besoin auprès des entreprises, par exemple. Elles ont besoin, les entreprises ont besoin, justement, des femmes dans les différents postes de techniques du numérique, Peggy?
Oui, elles sont en pénurie. Il manque, par exemple, aujourd'hui 10 000 ingénieurs en France tous les ans. En fait, c'est le seul secteur, si vous voulez, qui n'arrête pas de recruter depuis pratiquement 14 ans. Donc, en fait, tous les ans, il manque. Alors ça, c'est du niveau ingénieur, mais il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont à des niveaux moins qualifiés. Mmh. Donc, il y en a pour tout le monde, dans la cyber, dans la santé, dans l'agriculture, dans le transport, dans la ville durable. Enfin, en fait, tous les secteurs sont impactés.
Peggy Vicomte, justement, pour ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce qu'elles ont la possibilité d'avoir des opportunités d'ambition de carrière dans le monde numérique?
Alors oui, bien sûr, des ambitions de carrière. Il y a de la place, puisque c'est un secteur en constante évolution d'emploi. Donc en fait, et je dirais même que les filles ont... une attention toute particulière au niveau des recrutements. Elles gagnent parfois un peu plus à la sortie que les garçons à la sortie des filières. Donc c'est ça qui est intéressant. Le salaire moyen brut constaté, alors c'est une moyenne, donc je ne sais pas si... Voilà, mais juste pour vous dire, 49 300 € à la sortie d'un bac plus 2 ou d'un bac plus 3 sur certaines fonctions.
C'est bien. C'est énorme.
C'est énorme.
Ah oui, c'est énorme, c'est oui. Énorme.
Et 91% de CDI.
91% de CDI.
Oui, oui.
J'applaudis, hein.
Voilà.
Ah ben, donc, bac plus 2, plus 3, 49 000 euros.
Oui, alors évidemment, ça dépend.
Il faut faire tous des reconversions alors dans ce cas-là. Tout le monde. Alors on va tous faire une reconversion dans ce cas-là. Alors, Peggy Vicomte.
Je vous invite à le faire, bien sûr.
Donc ce qui veut dire, est-ce que vous avez de plus de. Tiens, vous me poussez à poser cette question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui justement se reconvertissent dans ce milieu du numérique?
Oui, il y a de. Alors, je ne sais pas si on peut parler de plus en plus de femmes qui se reconvertissent aujourd'hui. En tout cas, il y a des vraies opportunités de reconversion. Beaucoup de structures proposent, des associations, hein, par exemple, proposent des formations gratuites. Beaucoup d'ateliers de coding pour les jeunes filles. Vous connaissez probablement l'école 42 ou la grande école du numérique,
oui.
Qui propose des formations très accessibles. Qui permet de mettre un pied, peut-être pas d'atteindre tout de suite la rémunération dont on a parlé, mais de mettre un pied dans le secteur, de se former et d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, il y a tellement peu de jeunes filles dans ces filières qu'elles préfèrent recruter tout de suite et les former avec un plan de carrière.
Voilà. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui veulent peut-être aussi... faire une reconversion dans le monde numérique. Toutes ces femmes qui aujourd'hui, vous savez, avec l'effet Covid, s'interrogent aussi sur leur avenir. Vous leur dites quoi, Madame la Directrice Générale ?
Alors, je leur dis que si elles se sentent, si elles ont des appétences ou des compétences en la matière, il ne faut surtout pas hésiter. Il y a de l'emploi, il y a des formations, il y a des associations engagées pour favoriser l'insertion. Donc, je pense qu'il faut y aller. Il suffit d'être curieux et d'être ouvert sur le monde, puisqu'en fait, ce sont des métiers vraiment très transversaux aux transformations de nos sociétés. Donc, moi, je conseillerais d'aller consulter, par exemple, le site internet de l'ONICEF. Il y a un livret qui existe sur les métiers du numérique. De se rapprocher, si on veut se reconvertir, de son agence pour l'emploi. Et puis, évidemment, d'aller sur notre site internet, femmes-numérique.fr.
Et vous avez toutes les informations.
Exactement.
Vous êtes
les
là.
Associations, il y a une cartographie, par exemple, oui. Des associations qui proposent des actions en direction des jeunes filles.
Eh bien, écoutez, Femmes Numériques, allez chercher toutes ces informations pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, je pense que le site est très clair avec les ambitions, avec la fondation, avec l'association. Merci, Peggy Vicomte, la directrice générale de l'association, d'avoir été avec nous pour en parler. C'est très important. Merci.
Merci pour votre invitation.
Merci tout de suite. La pub, puisque évidemment, première tranche pub. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler de ce tout nouveau gouvernement avec Maître David Libeskind. Bonjour.
Bonjour.
Mais également aussi avec Amit Chriette. Bonjour.
Bonjour.
Quel nouveau visage. J'aime bien David, il donne le ton. Hein. Oh là 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 là.
Oh là là. Il y a beaucoup à dire. Hein.
À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et il est 19h20 et c'est le face-à-face. Je vous attends au 01 53 48 3000 pour commenter ce tout nouveau gouvernement. Allons-y, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face. Le
face-à-face. Maître David Libeskind, bonjour.
Rebonjour.
Tout va bien ?
Ça va, tout va bien, il fait beau.
Ahmed Chriette, face à vous. Bonjour l'éditorialiste.
Bonjour. Ah, vous n'avez pas oublié l'éditorialiste.
Non, bah
pourquoi ?
Bien,
merci beaucoup.
Bah oui,
c'est normal.
Hop, il a droit à une clochette, lui.
Allez, ouais.
Il aime bien les étiquettes, lui.
Ouais, il aime bien.
Il aime bien les fonctions,
les titres.
Le caviar.
T'as pas été nommé au nouveau gouvernement. J'ai cherché ton nom, j'ai pas trouvé, Amine.
Son nom a circulé. Hein.
J'avais proposé ton nom, David, mais bon.
Non, pitié.
Pitié.
Non, on m'a dit que t'étais pas.
Pitié, il a dit pitié, j'adore. Pitié. Pourquoi tu veux. Non, ça vous intéresse pas.
Non, ça m'intéresse pas.
Ça vous intéresse pas.
Et t'as mis le prochain gouvernement de Mélenchon.
Non.
J'ai fait déjà une transition.
Messieurs, tout de suite, nous allons parler de ce tout nouveau visage, justement, entre Marine Le Pen qui s'est exprimée, qui a fait une déclaration, entre Jean-Luc Mélenchon aussi, pareil, ça tacle pas mal. Alors, ce nouveau gouvernement, dites-moi, d'abord, comment vous l'accueillez ? Quels sont ces nouveaux visages ? Est-ce que finalement, Emmanuel Macron, le chef de l'État, apporte justement ce changement dont il a parlé en pleine campagne. Alors, Maître David Lemeskine.
Le nouveau parti politique qu'il a créé pour avoir une majorité de députés au Parlement s'appelle Renaissance. Et le constat malheureux que l'on fait en fait ce nouveau gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de Renaissance. Puisque les poids lourds sont reconduits au même poste, Bruno Le Maire, Dupond-Moretti, etc. Les ministères, les plus gros ministères, ça reste toujours les mêmes. Alors, quand même quelques points positifs. Bon, pour l'éducation nationale, Monsieur Pape Ndia, qui a quand même un parcours assez brillant, assez exceptionnel. Mmh. Même si, je le rappelle, même s'il est issu de la diversité, il n'est pas issu des milieux quartiers populaires. Voilà, ce qu'on regrette un petit peu dans ce gouvernement,
c'est qu'il n'y a pas
vraiment des gens, entre guillemets, des citoyens du peuple qui se sont fait eux-mêmes, qui sont autodidactes, etc. Voilà, c'est tous en fait des personnes qui sont bardées de diplômes et qui ont réussi, tant mieux pour elles, mais voilà, ça donne pas vraiment un gouvernement de méritocrate.
Ça tacle.
Voilà, de méritocrate.
Pape Ndiaye dit qu'il est issu du produit de la diversité et de la méritocratie.
Je ne crois pas, parce qu'il n'est pas issu des milieux populaires. Son père était ingénieur.
C'est quoi méritocratie?
Sa mère, professeur de sciences naturelles. C'est-à-dire, en fait, c'est pas quelqu'un qui a vraiment peiné, qui a peiné pour réussir. Il bénéficiait dès le début, en fait, dès son enfance, et tant mieux pour lui, hein, c'est pas du tout une critique, d'un environnement qui lui est largement favorable. Ensuite, il y a quand même des rétrogradés dans ce nouveau gouvernement. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Olivier Véran, qui avait un grand portefeuille, il était ministre de la Santé, qui est aujourd'hui ministre délégué au Parlement. Ça ressemble un petit peu à une rétrogradation. Et pareil, en fait, pour l'ancien porte-parole du gouvernement, qui bénéficie d'un portefeuille de ministre délégué au budget, qui est rattaché, en fait, à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Mais je pense qu'on est assez déçus. On voit pas le changement. Il y a deux ministères qui sont très axés sur l'écologie. Hein, là, il y a la transition écologique. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas le changement que je pense qu'attendaient les Français et que nous avait annoncé le président de la République.
Ah, Mitch Rietz.
D'abord, ce qu'on peut constater,
c'est... Et je vous laisse réagir au 01-53-48-3000. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos débatteurs? Ou vous-même, comment vous le vivez? Allez-y.
D'abord, ce qui est stupéfait, ce qu'on peut constater, c'est le changement, le grand tournant à la fois dans l'éducation nationale entre Blanquer et M. Ndiaye. Deux différentes idéologies. Je veux dire que ce sont deux différentes idées.
Il a raison.
On ne comprend pas très bien.
D'ailleurs, BFM, sous-titre d'ailleurs, islamo-gauchisme, Ndiaye opposé à Blanquer.
Donc, vous voyez bien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, même si je n'aime pas ce terme islamo-gauchisme qui ne veut rien dire, pourquoi pas des droito-gauchisme, les catholo-gauchisme, etc., les atho-gauchisme, je ne sais pas quoi, on peut utiliser tous les adjectifs que l'on veut. Je pense qu'aujourd'hui qu'il y a un vrai tournant. En tout cas, on voit que ce gouvernement-là, les classes populaires ne sont pas représentées. Mmh. Au sein, effectivement, de ce gouvernement, la ruralité, qui est aujourd'hui un socle majeur aujourd'hui. Les premiers qui souffrent sont les classes populaires et la ruralité. Et on voit, par exemple, on serait attendu, par exemple, à un Jean Lassalle comme ministre. Là, c'est une surprise. Une personne des quartiers
populaires. Vous auriez voulu des personnalités des classes populaires?
Des classes populaires, par exemple.
Oui. Qu'est-ce que vous appelez les classes populaires et les quartiers?
Les quartiers, les banlieues, les gens qui sont dans des arrondissements populaires, dans des quartiers difficiles. On connaît très bien. 19e, 18e, Aulnay-sous-Bois, Villeneuve-la-Garenne, etc.
Marseille.
Donc voilà.
Ils sont sur le terrain.
Qui souffrent aujourd'hui à longueur de journée, qui sont les premiers impactés. Crise du Covid, crise sociale, inflation économique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont les premiers concernés. Ce sont les premiers aujourd'hui qui connaissent la réalité sociale, qui subissent les conséquences.
Les gens du terrain, c'est ça?
Ce sont des gens du terrain. Oui. Je pense qu'il est très important. Et ce gouvernement, malheureusement, ne donne pas de signal. Il a effectivement nommé Pape Ndiaye. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de la jeunesse française échappe à ce gouvernement-là. Et on a vu, si on fait effectivement pendant la campagne présidentielle, on voit bien que la tranche d'âge 28 a voté pour Mélenchon, 28, 30, 30, 35, majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. On voit que cette jeunesse-là aujourd'hui, elle est ancrée. Elle est ancrée dans les quartiers populaires, elle est ancrée dans la diversité, elle s'ouvre au monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on dit que cette jeunesse-là fait partie du wokisme, de l'islamo-gauchisme, etc. En réalité, la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour cette jeunesse? Ce sont les questions de méritocratie, d'égalité des chances.
Et Pape Ndiaye qui fait cette déclaration, il dit « Je suis moi-même le produit de la méritocratie et de la diversité ».
Sur son parcours, effectivement, Pape Ndiaye a été une personnalité effectivement brillante, etc. Mais n'oubliez pas, Pape Ndiaye est une personne qui a immigré aux États-Unis et qui a réussi aux États-Unis.
Il a passé 5 ans aux États-Unis.
Qui a fait une carrière aux États-Unis, parce que pourquoi? parce qu'en France, il n'avait pas justement d'opportunité. Il n'avait pas d'opportunité. Et qui était nommé directeur du musée...
Directeur général du musée d'immigration.
Alors, je ne suis pas certain de ce que tu dis, parce qu'il a été quand même professeur à Sciences Po, il a occupé des postes d'enseignement après avoir passé 5 ans aux États-Unis.
Ce qui est intéressant,
David Levitskid, et ensuite Amit Shriev.
Non, ce qui est intéressant dans son parcours, parce qu'on s'attache à lui, c'est qu'il s'est intéressé à la question noire. D'après ce qu'il dit, quand il est arrivé aux États-Unis, il a vu que la question noire qui était abordée aux États-Unis n'avait rien à voir avec ce qui se passait en France. Et donc, en fin de compte, il a travaillé sur cette question noire. Il a essayé, en fait, de l'exporter en France.
Et ça n'a pas fonctionné.
Mais je pense que c'est un profil intéressant parce que je ne connais pas toute sa biographie, mais en tout cas, ce n'est pas un politique. Donc, on verra bien ce qui est peut-être pour l'éducation nationale.
Amit Shriev,
si vous me permettez, si c'est pour que ça soit la caution d'Emmanuel Macron sur la diversité, de façon très claire aujourd'hui,
oui.
Emmanuel Macron n'a rien fait pour les quartiers populaires.
Ah oui, là, on est d'accord.
5 ans, c'est un bilan qui a été catastrophique.
Tout à fait, on est d'accord là-dessus.
Si c'est pour prendre une personnalité de façon symbolique et dire je canalise les quartiers populaires, etc., il va avoir des émeutes en France. Si ce gouvernement continue comme ça, nous allons avoir tout droit des émeutes en France. Pourquoi ? Parce que je le rappelle, les premiers qui sont impactés aujourd'hui en France, ce sont les gens des quartiers populaires et dans la ruralité. Ce sont des gens qui n'arrivent aujourd'hui pas à se soigner, désert médical, inégalité sociale, chômage massif, discrimination au logement, discrimination au travail. Donc, il y a des inégalités qui se superposent et qui créent des frustrations. Ce gouvernement aujourd'hui est incapable de résoudre ces problèmes-là et il doit aujourd'hui impérativement résoudre ça. Emmanuel Macron aujourd'hui, dans une stratégie législative, en réalité, il se contrefout, excusez-moi de l'expression, des quartiers populaires et de la ruralité. Alors, et de surcroît, de lutter contre les inégalités et l'écologie. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important
donner des gages
et des signes.
C'est pas un gouvernement...
Parce que c'est qu'il va perdre les législatives.
Non, mais c'est pas un gouvernement de combat pour la justice sociale. Il a plutôt une orientation plus tournée vers l'écologie. Parce que bon, il y a même pas de ministre de la jeunesse, alors que évidemment la jeunesse d'aujourd'hui souffre, que ce soit dans les quartiers populaires ou ailleurs, elle souffre de manière générale. Après, faut pas oublier que c'est un gouvernement de transition, de provisoire, qui va durer un mois. Après, on va voir le résultat législatif, qu'est-ce que ça va donner. On est même pas sûr de les revoir en fonction du résultat des législatives. Alors c'est vrai que c'est un gouvernement un petit peu d'affichage de la diversité. Comme on a dit, pour.
Et à la ministre de la Culture, vous l'avez dit.
Voilà, ministre de la Culture, mais c'est pareil, c'est pas quelqu'un.
Qui est diplomate aux États-Unis, qui est d'origine.
Voilà, qui a fait le lycée international.
Qui est conseillère de la culture d'Emmanuel Macron.
Tout à fait, elle a fait le lycée international à Lyon.
Quand on travaille au cabinet d'Emmanuel Macron et qu'il y a une personne d'origine libanaise, est-ce que la première communauté en France, c'est la communauté libanaise? Excusez-moi,
ça
non.
Rien dire.
Non, mais attendez.
Non, mais après.
C'est la communauté maghrébine. Excusez-moi, quel est le bilan d'Emmanuel Macron dans les pays du Maghreb avec le Maroc? Quelles sont ses relations avec l'Algérie? Quelles sont ses relations avec la Tunisie? On va pas faire, c'est un autre thème ici, je veux pas sortir du sujet, mais excusez-moi, à un moment donné, les classes populaires sont de majoritaire maghrébine, il va falloir aussi,
En tout cas, elles sont pas représentées, ça c'est certain dans le gouvernement. Concernant la ministre de la Culture, elle a peut-être un profil aussi intéressant, mais bon, elle a fait le lycée international à Lyon. Quand elle était toute jeune, tant mieux pour elle, mais bon, ça prouve en 20 ans qu'elle n'est pas issue en fait des milieux populaires, quoi. C'est pas des gens en fait qu'on peinait pour arriver où ils en sont. C'est pas ça la méritocratie républicaine. Quand en fait dès son enfance ou son adolescence, on bénéficie d'un environnement favorable parce que papa ou maman ont une bonne situation.
Allez, vous savez quoi, il est 19h30 et on va s'intéresser justement, comme chaque vendredi, au billet d'humeur, au Code Neuf. Et le Code Neuf, c'est avec Michel Taube. C'est parti.
Les informés, le Code Neuf.
Bonsoir mon cher Michel.
Bonsoir Adil et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
J'ai cru comprendre, c'est la tournée médiatique pour vous aujourd'hui, ce soir.
Bah oui, Beurre FM, ça fait partie de la tournée.
Absolument, on vous écoute, voilà. Vous avez décidé de consacrer votre Quoi de Neuf avec justement le tout nouveau visage du gouvernement. À vous la parole.
Alors écoutez, donc je vais pas rebondir sur ce qui a déjà été dit, bien entendu que un des événements majeurs, c'est peut-être le seul d'ailleurs du nouveau gouvernement Macron, c'est la nomination de monsieur Ndiaye à l'éducation nationale. Je pense que c'est un petit, comment dire, non pas une révolution mais un joli coup médiatique. J'espère qu'au-delà du médiatique, ça va effectivement permettre à monsieur Ndiaye de construire la république de nos enfants dont on a grandement besoin. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que quand même, quatre semaines pour nommer ce gouvernement, qu'est-ce que ça a été long. Et je ne suis pas certain que la composition qui nous a été annoncée justifie un tel temps pris par le chef de l'État. Grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? sur les questions régaliennes, les armées, l'intérieur, l'économie, c'est des hommes et des femmes de droite qui ont été nommés par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Et sur les questions plus sociales, l'éducation, les enjeux de... Tiens, il n'y a pas de la politique de la ville dans le gouvernement. Il n'y a pas la politique de la ville.
Mais ils attendent pas après les législatives, justement ?
Ah ben non, parce que ça fait partie des surprises du jour, c'est que plusieurs secrétaires d'État ont été nommés, une dizaine de secrétaires d'État qui ont été nommés dès aujourd'hui, alors qu'ils annonçaient initialement un gouvernement resserré.
Alors où est passé le ministère de la Ville ? Où est passé le ministère de l'Égalité des Chances ? Où sont passées justement ces personnalités issues des classes populaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure ?
Alors, effectivement, mais quand même, ce que je voudrais dire, c'est que sur toutes ces questions, grosso modo, Emmanuel Macron... Sur les questions régaliennes, il a pris des gens de droite. Et sur les questions plus sociétales, il a pris des gens de gauche. En additionnant les deux, ça vous donne l'équilibre de la Macronie et du en même temps macronien.
Moi, je vois pas
qui va permettre à peu près à tout le monde de s'y retrouver. Mmh. Mais la réalité, c'est que les poids lourds du gouvernement, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, alors Sébastien Lecornu qui vient de la droite aux armées, ben voilà, c'est quand même des personnalités de droite. Et sur ce plan-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Donc sur le plan des symboles, avec le ministre de l'Éducation, avec la ministre de la Culture, je pense qu'Emmanuel Macron essaye d'aller un petit peu chercher sur le terrain de Mélenchon et de la nouvelle Union populaire de la droite, de la gauche. Mais sinon, ça reste sur les fondamentaux une continuité avec le premier quinquennat.
Michel
pas vraiment de révolution à part un ou deux symboles forts.
À part un ou deux symboles forts, mais c'est vrai, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, on se pose la question. Où a-t-il disparu le ministère de la Ville ?
Bah alors, sauf si je me trompe, j'ai peut-être raté l'information, mais il me semble qu'il n'y a pas de ministre de la Ville.
Oui, il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas, mais pourquoi ?
Il n'y en a pas.
Est-ce qu'on a l'info ?
Écoutez, vous savez ce que je vous propose ? On appelle immédiatement Emmanuel Macron, on lui demande.
Ouais,
parce que
c'est
je
vrai.
Trouve que c'est vraiment scandaleux, c'est inadmissible. Moi, j'avais dans un épistolo qu'il y a un ministre des campagnes et un ministre des villes.
On a
un ministre de l'Agriculture, mais on n'a pas de ministre de la Ville. C'était Madame Hay qui l'assurait sous le précédent quinquennat.
Oui.
Il faut dire que c'est une femme très, très sympathique, mais bon, on ne l'a quand même pas tellement vue, alors que c'était un des grands enjeux de notre pays. Et là, effectivement, il n'y a pas de ministre de la Ville, ce qui est quand même d'autant plus regrettable que entre la fin du premier tour de l'élection présidentielle et sa prise de fonction du deuxième mandat...
Mais il n'a pas arrêté de parler d'égalité des chances.
Exactement.
Durant la campagne.
Il a fait de la communication politique.
Il n'y a ni d'égalité, ni de chance.
voilà. Mais je vais vous dire...
C'est la première ministre qui en a parlé.
Oh.
Si. Attendez, oui, Michel Taube.
Non. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai.
C'est Maître David Libeskind, justement.
Alors, enchanté. Moi, je voudrais quand même dire que je salue le choix qu'a fait Elisabeth Borne d'aller hier au Mureau pour rencontrer des jeunes filles qui bénéficient du soutien de marraines et de parrains, de mentors, hein, c'est ce qu'on appelle le mentorat, pour trouver du boulot, trouver une bonne formation, etc. Parce que ça, c'est une idée extrêmement forte qui donne de très très bons résultats dans plein de pays.
Oui.
J'ai trouvé ce choix excellent. Mais c'est vrai, qui c'est qui va assurer le suivi ? Il n'y a pas de ministre de la Ville pour le faire.
C'est vrai.
On peut vraiment le regretter.
Et le ministre de l'Égalité des Chances qui était incarné par Elisabeth Moreno, c'est vrai, durant la campagne, on a beaucoup entendu parler de l'égalité des chances. Ça aussi,
non,
ça a disparu.
Non. Sur l'égalité des chances, non. C'est attaché. Alors, excusez-moi, cher Adil, mais je n'ai pas le nom sous les yeux, mais il y a un secrétaire d'État qui est chargé de l'égalité homme-femme et de l'égalité des chances. Mais qui, j'avoue, n'a pas le nom sous les yeux, mais il y a quelqu'un.
Il y a des secrétaires d'État qui ont été nommés ?
Oui, bien sûr.
Quelques-uns, pas tous. Il paraît qu'il y en a une dizaine encore, une quinzaine qui vont être nommés après législative.
On s'attendait plutôt à ce qu'il n'y ait aucun secrétaire d'État, qui est que 15 ou 17 ministres nommés, point barre. Et en fait, là, il a tout de suite avancé une dizaine de secrétaires d'État en plus. Et vu les enjeux d'urgence sociale, vu les enjeux politiques avec l'Union de la gauche qui est quand même la grande surprise depuis l'élection présidentielle, on aurait pu espérer que sur ces sujets, ils nomment des secrétaires d'État sur des questions aussi importantes que la politique de la ville. Et là-dessus, effectivement, je pense que c'est un oubli important.
Eh bien, merci mon cher Michel Taub, vous êtes le patron d'Opinion Internationale, vous êtes éditorialiste. Et je crois savoir que vous allez encore poursuivre
le marathon
voilà. Médiatique.
Mais il n'y a pas de marathon sans un passage par Beurre FM.
Merci, ça nous touche. Vous êtes toujours, vous savez quoi, voilà. Vous êtes chez vous. Hein.
Non, mais je vais vous dire, il n'y a pas de marathon pour moi sans passage par Beurre FM et Adil Farkan.
Ah, il a droit à une clochette. Merci, ça me touche. Merci. Allez, Michel Taub, bon week-end. Bon week-end à vous, on se retrouve dans une poignée de minutes. On va continuer à parler. Évidemment. Où est, non mais sérieux, le ministère de la ville, messieurs, grande question.
Il n'y a plus de ville, il n'y a que des déserts médicaux.
Non mais je me pose la question, il est passé où ce ministère?
Je ne sais pas.
Ne me dites pas qu'il a été squeezé.
Ah bah, les ministères de la ville ont toujours été très précaires.
Il y en a eu dans chaque gouvernement. Bon, on va lancer la pub, on va en parler. Moi, je comprends pas. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le temps file incroyable, il est 19h44, quasiment 45.
Les informés.
Oui, les informés, pourquoi pas, hein, je veux bien enchaîner le jingle. Amin Chriad face à David, maître David Limeskid, 01-53-48-3000. Je voudrais vous entendre notamment. Messieurs, avant de passer au sujet concernant les législatives, puis aussi Jean-Luc Mélenchon, je voudrais quand même vous poser la question, où sont passés certains ministères, dont celui qui est chargé de la ville?
Bah écoutez, c'était les campagnes, c'était la promesse de Emmanuel Macron.
Est-ce qu'on attend après les législatives?
Mais attendez, c'était la promesse du président de la République qu'il allait faire pour l'égalité des chances, etc. Et d'abord, moi, j'aimerais revenir sur beaucoup de gens, beaucoup des pseudo-éditorialistes qui sont dans les télés, qui parlent d'égalité des chances. Ce que les Français et la diversité demandent, et les gens des quartiers populaires, c'est l'égalité des droits. Il faut arrêter de créer des prépas Sciences Po, etc. Nous ne sommes pas des handicapés, nous avons un cerveau, nous réfléchissons comme les autres, nous faisons des études comme les autres, nous ne demandons pas de traitement de faveur. Je demande aujourd'hui, et de façon symbolique, un ministère de la République. De la République. Mmh. Égalité, liberté, fraternité. On ne veut pas de traitement de faveur. On ne veut pas de traitement de faveur. On ne veut pas de quotas. On veut le droit, rien que le droit. Tout simplement, nous demandons l'égalité de droit, l'égalité de traitement dans tous les sujets. Et vous remarquerez à juste titre qu'aujourd'hui, M. Ndiaye, on lui fait effectivement un traitement dans les médias. Pourquoi? Parce qu'il est de couleur noire. Et c'est la question du gouvernement. Et donc, les médias se focalisent.
Vous allez loin, vous.
Oui, tu vas loin parce que pour la ministre de la Culture, les franco-libanaises, ils font pas de buzz sur elle.
Attendez. Certains médias commencent à faire du buzz parce qu'il est noir, etc. Blablabla. Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de ministère de la ville, pas de ministère de la République, de l'égalité des droits. Ils font un ministère, pas de l'égalité des chances.
Alors, il y a un ministère délégué à l'égalité des chances.
Et les chances n'existent pas.
Mais le fait que ce soit un ministère délégué ne le met pas en avant, parce que c'est pas un ministre à part entière. Mmh. Il est délégué. Mais... Ce qui veut dire que c'est pas la priorité du gouvernement. On l'a bien compris que la priorité du gouvernement, apparemment, c'est la transition énergétique et la planification écologique. D'ailleurs, ce qu'avait annoncé Elisabeth Borne, Premier ministre. Ensuite, elle a fait de l'affichage, effectivement, il y a quelques jours, pour prôner l'égalité des chances. Mais ça reste que de l'affichage. Il suffit de voir, en fait, l'orientation que prend ce gouvernement du fait des différents ministres qui ont été nommés. C'est vrai qu'on s'étonne qu'il n'y a pas de ministre de la ville.
Oui, c'est bizarre.
Pas, voilà, alors, ministre de classe populaire.
Politiquement, c'est une erreur d'Emmanuel Macron. S'il veut séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est une erreur, puisqu'il n'y a pas dans ce gouvernement.
Moi, je vous dis, j'ai entendu dire qu'on attendait les législatives. Donc, c'est-à-dire, après les élections législatives, il y a des noms qui circulent. J'ai entendu parler de Carl Olive, le député de Poissy. J'ai entendu aussi Olivier Klein, le maire de Clichy.
Oui, mais il a quand même nommé des secrétaires d'État. Donc, on a l'impression que le gouvernement a déjà fait. S'il gagne les législatives.
Moi, je vais vous dire la réalité.
Ce gouvernement va être conduit.
Je vais vous dire la réalité. C'est un gouvernement d'aristocrates, de bureaucrates, en réalité. Il n'y a pas de classe.
Il est chargé aujourd'hui. Hein.
Oui, il est chargé, c'est dit. Non,
je l'ai vu arriver, je te sentais nerveux.
Attendez, mais permettez-moi juste de terminer. Il n'y a pas aujourd'hui des représentants des quartiers populaires, de la diversité,
oui, voilà,
de la
ruralité,
des terroirs français qui font aujourd'hui la France. Les agriculteurs, les ouvriers, les employés, les cadres, les professeurs. C'est aujourd'hui des gens qui construisent la France, qui se lèvent la France du matin. la France qui construit, la France qui travaille, la France qui se lève tôt, la France qui aujourd'hui crée de l'emploi. Ce sont les PME aujourd'hui qui créent de l'emploi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron ? C'est de nommer des gens qui sont proches du peuple, qui sont dans le peuple et qui travaillent aujourd'hui, qui connaissent les réalités du terrain. On voit bien aujourd'hui que ce sont Madame Borne qui vient et qui nous dit qu'effectivement qu'elle aussi fait partie de la classe populaire. Ça me fait vachement rire. Écoutez, si elle fait partie de la classe populaire, moi aussi j'ai une consanguinité avec le pape François aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui il va falloir vraiment travailler sur ces questions-là parce qu'on est dans une explosion sociale et le temps aujourd'hui nous presse d'agir. Le gouvernement doit agir. Il y a les élections législatives et les promesses ont été là.
Bah surtout que dans les mois à venir, les problématiques vont être sociales. Entre la réforme des retraites, l'augmentation, le pouvoir d'achat, l'augmentation de l'essence.
Donc nous attendons des actions de ce gouvernement-là et qui prend au sérieux. Emmanuel Macron doit prendre au sérieux les attentes des populations.
Vous permettez, il nous reste quelques minutes. Mais j'aimerais quand même qu'on aborde Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Est-ce que vous pensez que, très honnêtement, le 12 et le 19 prochain, dans le cadre des législatives, peut-on s'attendre à une percée de la NUP ?
Alors, il est certain que la NUP aura une percée, puisque la gauche a réussi à faire son union, de manière globale, même s'il n'y a pas le NPA qui s'est allié à cette union. En revanche, alors les sondages prévoient, enfin, quand on lit les sondages, c'est toujours cette union de la gauche qui est en tête, par rapport à Renaissance, si j'ose dire. Mais faut se méfier de ces sondages, parce que les sondages doivent se faire par circonscription. Là, en fait, les sondages où on voit l'union de la gauche en tête, c'est un sondage global. Alors que ce qui est le plus important, c'est de voir de faire des sondages dans chaque circonscription. Parce que les élections législatives, c'est dans chaque circonscription. Alors, c'est certain qu'il y aura une percée, ça fait aucun doute.
Aucun doute, ok.
Est-ce que, ils auront une majorité pour gouverner? Donc, la question se pose. On verra bien. En tout cas, s'ils ont cette majorité pour gouverner, c'est sûr que ça va changer l'orientation de la France. Et de ce gouvernement qui sera obligé de toute façon de démissionner.
Écoutez, c'est certain qu'aujourd'hui la NUP va gagner les élections législatives. Il y a un rapport de force. Quand on constate 80% des circonscriptions aujourd'hui, elles sont données au premier tour, deuxième tour pour la NUP.
Ah non.
C'est des sondages.
Moi j'ai pas ça, mais bon.
Il y a des sondages qui traitent de ça.
Non, ils prévoient en fait dans le plus favorable, plus ou moins 160 députés pour la NUP.
En tout cas, moi
C'est loin d'être gagné.
Non, moi ce que je pense, et je vais vous dire les choses, c'est que je pense que les élections législatives vont être gagnées par la NUP, incontestablement, aujourd'hui. Il y a en tout cas les conditions les conditions sociales permettent à cette NUP d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Crise du logement, inflation, crise sociale, crise sanitaire qui va permettre effectivement de convaincre les gens. Parce que rappelons aujourd'hui que les députés sont élus par rapport notamment à des circonscriptions, mais aussi ils traitent des sujets nationaux.
Oui.
On est député de la nation, on n'est pas député d'une région
de sa circonscription. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions sociales sont là pour donner favorable à cette NUP, à une majorité à l'Assemblée nationale. Et effectivement, nous allons voir très prochainement.
Les conditions sociales étaient déjà présentes avant l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été réélu.
D'ailleurs, à juste titre, ça ne vous a pas échappé que M. le Président de la République a bien dit que M. Jean-Luc Mélenchon se comportait comme un sauvage. Donc on voit très bien la crainte.
Peur
qu'a le Président de la République sur cette majorité-là, cette coalition de gauche, qui peut effectivement et qui a la possibilité de gagner et de faire la différence.
Oui, c'est historique quand même.
Qui d'abord,
parce que...
un, répond à une question démocratique avec la 6e République. Deux, augmente le SMIC à 1500 euros. Trois, va aussi proposer l'âge de la retraite à 60 ans.
Oui.
Je crois que toutes ces progressions sociales-là vont permettre un épanouissement à la société française. Et répondre à toutes les catégories sociales, populaires, jeunesse.
Alors c'est historique, c'est vrai que c'est historique parce que c'est une union de la gauche. Bon, même si ça a été fait un peu tard, ça aurait peut-être dû être fait avant la présidentielle. Après, est-ce qu'ils ont une force de frappe suffisante pour gagner les élections législatives? On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une mesure emblématique au niveau social. Malheureusement, comme il y avait eu pour les 35 heures.
Toujours aussi intéressant. Vous voyez.
Le SMIC, tu peux pas dire.
Toujours aussi intéressant.
Excuse-moi.
Merci à Maître David Limeski d'à samedi, à dimanche prochain.
La 6e République, c'est une mesure emblématique. Avec
merci à Ahmed Chriette, à vous.
Et ça fait 20 ans qu'il
est. Je vous souhaite merci à la réalisation Yanis.
Merci.
Bilal, c'est le rendez-vous qui vous attend. Time Sport, de 20h à 21h. Riche programme qui vous attend. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Mais surtout, prenez soin de vous et plus que jamais, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.